Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Blaise Shindani Kambala. D'abord, les titres de ce journal. Très attendu à Rabat, les léopards de la RDC ont dominé les débats et l'ont logiquement emporté au stade Al-Medina grâce à Théo Bongonda, même si, aux yeux de certains Congolais, les fauves Congolais ont gagné sans briller. La situation sécuritaire et humanitaire au Sud Kivu était au centre des échanges ce mardi à Kinshasa entre la première ministre Judith Suminwa avec une délégation de députés nationaux du Sud Kivu. Ils ont exposé la situation critique des déplacés internes dans les différents territoires de la province ainsi que celle des réfugiés congolais au Burundi, en Tanzanie et en Ouganda. En invité, nous recevons Alexis Katumba, sous-directeur de l'Institut National de Préparation Professionnelle, INPP, dans la Tchopo. Avec lui, il sera question de la campagne de sensibilisation que son institution vient de mener à Kisangani sur l'égalité des genres. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal Parlé. Cannes Maroc 2025, les léopards de la RDC sans briller s'imposent sur les guépards du Bénin sur les scores d'un but à zéro. Une victoire saluée différemment par les Congolais. À noter qu'il y a très longtemps que les léopards ont gagné leur premier match lors d'une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Jean Gandou Kabongo.
C'est dans un match âprement disputé que les léopards de la République démocratique du Congo gagnent les guépards du Bénin. L'unique but des Congolais est l'œuvre de Théo Bongonda marqué à la 16e minute de la première période sur une passe décisive d'Arthur Maswakoum. Dominés, les léopards n'ont pas abdiqué jusqu'au coup de sifflet final. Une victoire saluée par plusieurs Congolais. Certains décrivent la manière de jouer des léopards qui laissent plus la possession des balles à l'adversaire en se mettant souvent en danger de voir l'équipe en face revenir au score. D'autres par contre estiment qu'à ce stade, la compétition, seule la victoire compte. Et les fauves congolais l'ont fait. D'autres encore estiment que les léopards qui sont à 90 minutes d'une participation historique à la Coupe du Monde devraient sortir les jeux comme face au Nigeria. Malgré tout, dans plusieurs coins du pays, la victoire des léopards a suscité des scènes de liesse populaire. Le sélectionneur Sébastien Desabre a donc quelques jours pour corriger les failles constatées afin que l'équipe se présente en conquérant lors des prochaines sorties et s'assurer ainsi de la qualification au tour suivant. Notez que de nombreux Congolais ont fait les déplacements du Maroc pour soutenir les léopards que plusieurs médias et analystes sportifs placent sur la liste des favoris de cette CAN.
Après la victoire enregistrée ce mardi au Maroc par les léopards de la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations, les habitants de Bouna expriment leur satisfaction. Si beaucoup saluent la performance de l'équipe nationale, d'autres estiment toutefois que certaines erreurs doivent être corrigées, d'autant que le prochain match face au Sénégal s'annonce particulièrement difficile. Leurs réactions sont recueillies par Jean-Claude Lokidile.
On a aimé le match, surtout vers les 15 premières minutes. On a senti une équipe de la RDC vraiment motivée. Malheureusement, arrivé à un moment, l'équipe a lâché, on ne sait pas pourquoi.
Il y a le milieu de terrain qui était un peu chaos, selon mon point de vue.
Le match était bon, tous les décors bien joués. Les Béninois, ils nous ont maîtrisé, je peux dire, la possession, mais on a réussi à marquer un but.
On avait la chance de marquer beaucoup de buts, on a eu beaucoup d'occasions, mais malheureusement.
La RDC n'a pas vraiment convaincu sur les plages aujourd'hui, bien que on a eu les buts par Théo Bongonda, c'est les buts d'expérience, parce que les défenseurs de Bénin étaient un peu distrait. À la seconde période, on était vraiment très acculés. Cette équipe était amoindrie par 5 joueurs qui étaient absents, mais le Léopard n'a pas vraiment donner sa vraie couleur aujourd'hui.
Face au Sénégal, bon, le Sénégal c'est une grande nation. Il faudra qu'on fasse un peu mieux, que les coachs puissent nous aider par rapport aux médiateurs. Alors.
Peut-être selon les plats que Sébastien Desabre va nous proposer, on va faire les miracles. Les assises, c'était les 3 points.
La situation sécuritaire et humanitaire au Sud Kivu était au centre des échanges ce mardi à Kinshasa entre la première ministre Judith Suminwa avec une délégation des députés nationaux du Sud Kivu. Les caucus des députés conduits par leur président Prince Sokola Kantitima disent avoir sollicité cette rencontre suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans cette province avec notamment l'occupation d'Uvira par les rebelles de l'FCM23. Ils ont exposé la situation critique des députés déplacés internes dans les différents territoires de la province ainsi que celles des réfugiés congolais au Burundi, en Tanzanie et en Ouganda. On écoute Prince Sokola Kantitima dans cet extrait proposé par Alain Irungumushi.
Les questions humanitaires, c'était un autre point, c'était l'autre volet de nos échanges avec Son Excellence. Nous avons présenté un peu la situation qu'il y a dans nos territoires respectifs des déplacés internes. Vous avez plusieurs déplacés internes dans la province du Sud-Kivu, dans les différents territoires. Nous avons plaidé pour que le gouvernement puisse venir en assistance à tous ces déplacés internes qui ont quitté leur résidence, leur maison. Et ils sont dans des endroits autres que leur résidence. Ils n'ont pas d'assistance. Ils ont besoin de sentir assistés par le gouvernement. Nous avons également parlé des réfugiés qui se trouvent dans les pays comme le Burundi. Nous avons des réfugiés qui sont en Tanzanie, d'autres en Ouganda. Nous avons échangé avec Son Excellence sur l'assistance à ces réfugiés-là. Nous sommes contents que le gouvernement est sensible à assister à ces personnes vulnérables.
Restons dans la province, le collectif des organisations de la société civile du Sud Kivu pour la paix déplore les silences des autorités congolaises face aux difficultés traversées par les milliers de Congolais réfugiés au Burundi. Selon l'un de ses membres, ces personnes ayant fui des combats entre les FARDC et les M23 dans plusieurs agglomérations du territoire d'Ouvira n'ont reçu aucune assistance. Hippocrate Maroumé indique que ces réfugiés n'ont pas accès à la nourriture, à l'eau potable ni à des soins de santé desquels dans les centres de transit érigés pour la circonstance. Cet acteur de la société civile plaide pour l'envoi d'une équipe gouvernementale afin de constater la situation sur place. Hippocrate Maroumé s'est exprimé au micro de Ronéline Tibonera.
Nous demandons dans l'urgence au gouvernement congolais de diligenter une mission, une aide d'assistance en faveur de ces réfugiés congolais qui sont dans des conditions précaires au Burundi pour qu'ils puissent voir dans les possibles comment se retrouver dans de bonnes conditions. Nous demandons au gouvernement de s'approprier le processus de paix, celui de poursuivre avec les pourparlers pour le retour de la paix, de s'approprier même le processus de dialogue qui a été initié par la CENCO et voir dans les possibles comment est-ce que nous pouvons aller à l'aboutissement de la paix parce que la population souffre vraiment dans des zones occupées. Au gouvernement burundais, nous demandons de pouvoir faciliter, ouvrir les couloirs humanitaires afin de permettre à nos collègues congolais qui sont actuellement dans des centres de transit, de retourner volontairement dans notre pays.
En Ituri, pendant ces temps, les bilans sécuritaires de l'année 2025 restent contrastés. Même si la coordination de la société civile Force Vive de cette province note un recul relatif des attaques de certains groupes armés après les opérations menées contre la rébellion CRP, cette structure citoyenne continue de dénoncer d'autres formes de violences et d'abus infligés aux civils. Dans ce contexte, la société civile appelle à la vigilance, à la cohésion sociale et au désarmement des groupes armés encore actifs. Des détails dans ses papiers avec Jean-Claude Lokidile.
Selon la société civile, ces opérations ont permis la récupération d'armes et de munitions, la neutralisation de certains combattants et la reddition d'autres au FARDC. Cependant, cette dynamique positive reste partielle. D'autres groupes armés, dont la CODECO, poursuivent leurs activités dans plusieurs zones sans subir de pression militaire comparable, relève la société civile de l'Ituri. Elle dénonce par ailleurs une recrudescence de tracasseries attribuées à certains éléments des forces de l'ordre, notamment dans le territoire de Djougou. Des jeunes, souvent assimilés à tort à des groupes armés, selon le responsable de cette organisation, seraient particulièrement ciblés. Malgré ces défis, la population salue les travaux de modernisation des voiries urbaines à Bunia, tout en exprimant des réserves sur leur qualité. Enfin, la société civile appelle à la cohésion sociale, tout en exhortant les groupes armés à déposer les armes. Cela afin de permettre un retour durable de la paix en Ituri. Les crimes de masse, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, ainsi que le crime de génocide, ne resteront jamais impunis, conclut-elle. Bunia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Capi.
Au Nord Kivu, le gouvernement provincial organise depuis lundi une foire dite Kermesse de la paix dans la ville de Beni. Objectif, favoriser la cohésion sociale et booster l'économie locale en cette période des festivités de fin d'année. Marc Marofimbo, reportage.
C'est depuis le 20 décembre dernier que la kermesse de la paix a pris ses quartiers dans la sainte de la compagnie NRA à Bénéville. Les stands sont installés partout dans l'espace réservé pour cette activité où des hommes et femmes d'affaires ainsi que des jeunes entrepreneurs de la ville exposent leurs produits, d'autres partagent leurs expériences. Rachel Kapinga Ilunga, venue de Kinshasa, apprécie cette initiative qui lui permet d'augmenter son chiffre d'affaires.
Oh, je me sens très bien parce que hier, je me suis bâtie jusqu'au bout. Si on parle des bénéfices, il y a quelque chose. Ici, c'est mieux qu'il y ait au quartier.
Quelque part dans les parcs, nous croisons Blanche Zouzou. Cette Congolaise dit avoir vécu 32 ans à l'étranger. Elle aussi félicite les organisateurs pour cette kermesse, un lieu de convivialité et de rencontres selon elle.
I'm feel fine.
Je me sens à l'aise dans cette activité. Tout va très bien. Nous sommes tellement flattés par cette organisation qui nous donne l'opportunité de nous rencontrer avec nos frères et sœurs après plusieurs années. Les coiffeurs peuvent aussi venir parce que nous pouvons avoir besoin de tresser de belles coiffures ici. Surtout, nous les femmes, celles qui va installer son stand de coiffure ici peut avoir beaucoup de clientes. La kermesse de la paix de Beni est organisée conjointement par les divisions provinciales du tourisme et culture et arts. Elle va durer jusqu'au 4 janvier 2026. Beni, Marc Marufimbo, Radio Okapi.
Dans le même registre, au Kasaï Oriental, 48 heures nous séparent de la fête de nativité. Pour célébrer Noël, plusieurs parents ont amené leurs enfants au grand marché de Bakwadianga à Mbujimayi pour leur acheter de nouveaux vêtements, des cadeaux et de la nourriture. Des explications avec Esther Ndalafina.
À l'entrée du grand marché Bakwadianga sur l'avenue de l'université, des guirlandes, des chapeaux et des bonnets rouges de Père Noël sont étalés à plusieurs endroits. Les choix n'est pas facile à effectuer, affirment certains parents.
Nous sommes ici à Bakwadianga où nous sommes venus payer des jeux de lumière pour les festivités de la fin de l'année 2025. Nous nous préparons déjà pour Père Noël.
Bon, on a acheté ça parce que ça nous a attiré.
Et puis la fête de Noël, c'est pour les enfants.
Du côté des étalages pour habillement, certains enfants accompagnés de leurs parents sont visibles en train d'acheter les habits. Plus loin, quelques parents achètent la viande de bœuf, les poulets et les poissons frais.
Je viens juste de prendre l'argent. Je vais acheter pour mes enfants les habits, à manger, même à boire. Il y en aura. Je vais les satisfaire.
Bien avant la fête de Noël, les militaires et les agents de l'État ont été payés comme promis par le chef du gouvernement. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Le prix du maïs connaît une forte hausse à Kananga. La mesurette communément appelée Meka, qui s'est vendue à 2500 francs congolais il y a une semaine et demie, s'échange aujourd'hui entre 5000 et 5500 francs congolais. Selon les vendeurs, cette flambée est liée à la rareté de cette denrée alimentaire sur le marché. Une pénurie qui fragilise de nombreux ménages de la ville, lesquels appellent les autorités politico-administratives à intervenir pour trouver une solution rapide. Reportage signé André Katendenga Lamouloumé.
Dans la ville de Kananga, la rareté du maïs se fait de plus en plus sentir. Nous sommes au marché Kamaï. Les dépôts sont presque vides et les étals ne présentent que de faibles quantités de cette céréale, pourtant principale nourriture de la population de Kananga. Selon les vendeurs rencontrés sur place, cette situation est à la base de la hausse du prix du maïs sur le marché. Henriette Mouaouke, une vendeuse, explique que la dégradation avancée de la voie ferrée dans les territoires de Demba, ainsi que le mauvais état des routes et des dessertes agricoles, empêchent l'acheminement normal du produit vers la ville. Cette pénurie a des conséquences directes sur le panier de la ménagère. Rose Mputu est venue pour acheter le maïs. Elle s'est dit préoccupée par cette hausse des prix qui complique sérieusement la gestion du budget familial.
Lorsqu'il y a hausse du prix des maïs, ça nous fait mal. Je suis venue avec une idée d'acheter 3 mécas, mais je trouve un méca à 5500 francs congolais. Le calcul est déjà perturbé.
La population lance un appel aux autorités provinciales pour une intervention urgente afin de rétablir l'approvisionnement en maïs et soulager le ménage. Kananga, André Katendenga Lamouloumé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'imam Mahmoud Diko, dans une vidéo diffusée lundi 22 décembre dans la soirée sur les réseaux sociaux, a confirmé son implication dans la nouvelle coalition des forces pour la République qui vise à faire chuter le régime de transition et appeler les Maliens à se lever pour la paix. Cet appel a été lancé en plein sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Après le général nigérien Abdourahman Tiani, arrivé ce lundi, le capitaine burkinabé Ibrahim Traoré a enfin atterri à Bamako ce mardi 23 décembre. Il a été accueilli avec les honneurs par le général Assimi Goïta, président malien de transition et président en exercice de la Confédération de AES. Après le couac de ce lundi et les reports toujours inexpliqués de l'arrivée d'Ibrahim Traoré, le programme de ce deuxième collège des chefs d'État a été resserré pour tenir sur une journée.
L'invité.
L'Institut national de préparation professionnelle INPP a organisé la semaine dernière une campagne de sensibilisation sur l'égalité des genres. Pour marquer le lancement de cette initiative, une caravane motorisée a parcouru les principales artères de la ville. Dans le cadre de cette campagne, nous recevons le sous-directeur de l'INPP Tchopo, Alexis Katumba, s'entretient avec Jacques Moukonkole.
Alexis Katumba, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui justifie la campagne sur l'égalité des genres que vous organisez aujourd'hui?
Voilà. D'abord, il s'est fait qu'il y a depuis quelque temps que l'INPP a mis en place une stratégie genre et public vulnérable. Et les partenaires qui nous appuient dans cette démarche ont jugé bon d'appuyer l'INPP pour permettre à ce que on puisse se déployer sur le terrain pour, en fait, passer le message à toutes ces personnes sur l'égalité du genre, qui n'est peut-être pas un problème des femmes, mais qui est un problème de toute une population, de changement de comportement pour que ces femmes qui sont moins valorisées puissent, en fait, intégrer tous les postes de responsabilité et être à même d'être égales avec les hommes.
Pour certaines femmes, il y a des métiers qui ne sont réservés qu'aux hommes. Pensez-vous que cette campagne puisse leur faire changer d'avis?
Bon, disons que c'est un premier pas. Nous disons pas que c'est une dernière action. Je pense qu'il faut toujours commencer quelque part. On a pris cette initiative de commencer aujourd'hui. Nous espérons que nous allons toucher une grande partie de la population active pour leur permettre à ce que le message passe. Effectivement, il sera peut-être faible aujourd'hui, mais je pense que les personnes qui seront touchées pourront à leur tour aussi transmettre le message aux autres qui n'ont pas pu avoir ce message aujourd'hui. Et peut-être qu'avec ça, on pourra peut-être atteindre une grande couche de la population. Et avec les actions à venir, on pense que le message va passer, les comportements vont changer, comme vous l'avez dit. C'est quelque chose de culturel dont il faudrait apporter des réponses structurelles pour que les personnes qui sont concernées, les hommes et les femmes, puissent en fait voir dans une même direction et permettre à ce que cette femme qui aujourd'hui n'est pas valorisée puisse se réveiller et demain assumer toutes ses responsabilités.
Quel est le message en fait que vous voulez faire passer, que vous adressez aujourd'hui à l'opinion?
Bon, le message que nous faisons passer aujourd'hui, c'est cette conscience, parce que déjà la Constitution de la République prône l'égalité des chances, l'égalité des sexes, l'égalité des opportunités dans l'insertion professionnelle. Et bien ce message, nous INPP, en tant qu'établissement de formation, c'est en fait montrer que tous les métiers qui sont appris ici, ce ne sont pas seulement des métiers voués à la gente masculine. Ce sont des métiers qui peuvent aussi être faites par des femmes. Donc, notre message aujourd'hui est de faire passer que les femmes qui sont peut-être victimisées, qui n'ont pas d'autonomisation, puissent venir apprendre un métier pour que demain, ils puissent, en fait, égaler l'homme dans les chances d'insertion professionnelle.
Quels sont les métiers qui sont organisés ici? Les formations, enfin, qui sont organisées. Pour quels métiers?
Bon, on est dans beaucoup de secteurs. Les filières, bon, disons aujourd'hui, les filières qui sont ici, il y a pour les filières qui sont plus ou moins féminines, il y a tous les métiers tertiaires et informatiques, mais il y a aussi la coupe couture, mais les métiers qui sont plus masculins, c'est nous avons l'électricité, la mécanique générale, il y a énergie renouvelable. Il y a beaucoup de métiers qui sont généralement pris à caractère masculin, qu'aujourd'hui nous voulons faire passer ce message pour dire qu'il faut enlever ces stéréotypes. Les métiers sont des métiers qui n'ont pas de genre, qui n'ont pas de sexe. Donc toute personne qui est valide peut venir apprendre un métier et être réinséré dans la communauté.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
C'était notre invité Alexis Katumba qui s'entretenait avec Jacques Monconcolé. Et c'est ce qui met fin à cette édition du journal Parler Vespéral, coordonnée par Élisée Chikota-Chivueta, supervisée par Alain Irungu-Mushinge et mise en onde demain des maîtres par Jean-Claude Nsiala Mwanamakengonsoalo. Ce journal est disponible sur toutes les plateformes numériques de la Radio Okapi et sur notre site internet www.radiookapi.net.